Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Né à Compiègne, Jean-Marc Vasseur se forme à l'école normale et suit des études universitaires. Il devient professeur et enseigne l'histoire pendant 42 ans au collège Guillaume Cal de Nanteuil-le-Haudouin. Professeur de l'éducation nationale, Jean-Marc Vasseur étudie avec méthode et passion le pays de Valois, Ermenonville et l'abbaye royale de Chaly, propriété de l'Institut de France, où il œuvre depuis plus de 25 ans en tant que responsable du service culturel et pédagogique. Aujourd'hui, il nous explique pourquoi, avec Pierre Curie, conservateur du musée Jacquemart, il a écrit un ouvrage intitulé « Nelly Jacquemart, artiste et collectionneuse de la Belle Époque ».
Ben, tout simplement parce que je suis un amoureux du domaine de Chaly. Au-dessus du portail de Chaly, il y a une inscription qui, il y a quelques décennies, me paraissait mystérieuse, à savoir « Musée Jacquemart-André ». Qui était-ce ? Et je repartais sans avoir répondu à cette question, jusqu'au moment où la situation personnelle m'a amené à vivre véritablement dans ce domaine tout à fait extraordinaire, qui a connu bien sûr bien d'autres artistes depuis le Moyen-Âge.
Il y a beaucoup de gens qui viennent au domaine de Chaly sans savoir qu'il appartenait à Nelly Jacquemart-André.
Absolument, et la plupart de nos visiteurs ne connaissent pas Nelly Jacquemart-André. Mais j'irais même plus loin, à Paris également. Les gens ne se posent pas la question. À Paris, on connaît Édouard André, donc celui qui sera le mari de Nelly. Mais Nelly elle-même, ou bien on peut dire que l'interrogation demeure pour nombre de passionnés de peinture, entre autres, qui viennent voir les expositions temporaires.
Alors dans ce bouquin, on éclaire un peu les gens sur un destin extraordinaire, puisque un destin de femme...
Oui, alors,
de la Troisième République, extraordinaire.
C'est un petit peu la mode. C'est un dessin extraordinaire, dans la mesure où elle fait partie de ce petit tiers de nos concitoyens qui a réussi à s'extraire de son milieu social, en quelque sorte. Alors, en deux mots, on peut dire qu'elle est issue d'une famille lorraine. Sa mère est de Vic-sur-Seille, quelques kilomètres au nord-est de Nancy. Son père est de Saint-Dizier, donc vous voyez, entre la Marthe et la Moselle. C'est un milieu modeste. On va les retrouver à Paris, dans les années 1837. On ne sait pas trop de quoi ils vivent. On sait que la mère de Nelly est modiste. Et le père est voyageur de commerce. Et puis il arrive une rencontre. Qu'on n'a pas su, évidemment, expliquer d'une façon très claire, pour la bonne raison que nous manquons d'archives. Et rapidement, je reviens sur cette carence d'archives, parce que c'est assez extraordinaire de voir comment beaucoup des archives sur lesquelles on pouvait compter ont disparu. Les archives de l'état civil, pour la plupart, ont été brûlées, puisque nous sommes là à Paris, à ce moment-là, lors de la Commune. Et puis, quand même, lorsque l'état civil est reconstitué... Eh bien, il n'est pas pour autant, évidemment, complètement véridique, puisqu'on est obligé d'admettre que, jusqu'en 1914, l'état civil était déclaratif. C'est-à-dire, vous avez un enfant, vous le déclarez, vrai ou pas vrai, voilà. Et le voici inscrit comme étant le fils d'eux ou la fille d'eux. Donc, c'est la rencontre d'une jeune fille, préadolescente, je dirais, Nelly Jacquemart, avec Rose Pamela de Vatry. Alors, Rose Pamela de Vatry mériterait, elle aussi, une biographie, puisque c'est sûrement une des femmes les plus importantes de la société de la monarchie de Juillet. Donc, vous voyez, on est entre 1830 et 1848. Elle est très proche du roi des Français, Louis-Philippe Ier. Elle sait parfaitement gouverner ses finances. C'est aussi une femme d'affaires. C'est une femme cultivée, qui aime la littérature, qui aime la peinture, qui aime la musique. Et qui va vivre cette période extraordinaire de 1802 jusqu'en 1881. Vous imaginez toutes les bousculades de la société qu'elle a dû subir pour résister avec beaucoup de pertinence à ces agressions, entre guillemets, justifiées ou non.
Donc elle devient la protégée.
Elle devient la protégée de Rose de Pamela. Nous, on l'appelle Pamela, parce qu'on la connaît depuis longtemps. Et Pamela de Vatry, donc, elle va perdre ses appuis politiques en 1848, avec l'exil des Orléans. Et elle décide d'acheter un domaine parce qu'elle trouve que là où elle se trouve, c'est-à-dire le château de Stein, est un peu trop près des émeutes parisiennes. Donc elle prend un peu l'air, si j'ose dire, et elle se porte acquéreur du domaine de Chaly.
Sa protégée, donc, Nelly Jacquemart,
va être élevée en grande partie à Chaly.
C'est Madame de Vatry qui va la mettre à la peinture ?
Alors, je pense que Madame de Vatry, je pense que, vous voyez, je prends des précautions. Elle a remarqué probablement les talents de dessinatrice. Elle va lui payer des cours de peinture avec les meilleurs professeurs de Paris. Il faut savoir qu'à cette époque, une femme, il est hors de question qu'elle puisse pénétrer dans l'école des Beaux-Arts.
Ouais.
Et même lorsqu'on a un professeur comme un homme professeur, eh bien, on est obligé de prendre des biais parce que c'est pas bien vu. Donc, c'est la sœur de son professeur, c'est la femme de son professeur qui va donner les cours.
Donc, en 10 ans, de 1860 à 1872, elle va devenir un peintre reconnu.
Complètement. Et c'est là où notre étonnement est peut-être le plus grand, c'est qu'elle fait partie des grands peintres, des grands portraitistes de ce moment. Bien sûr, elle a portraituré les personnages les plus importants, parce que Madame de Vatry les connaissait, c'est vrai. Mais d'un autre côté, elle va très rapidement faire sa voie, faire son chemin, et elle va être très célèbre.
C'est la première fois qu'une femme vit de son... Nard.
Non, je me méfie toujours de la première fois. Non, elle n'est pas la seule. Avant elle, il y a Rosa Bonheur, qui est sûrement la plus célèbre du 19e siècle. Mais elle fait partie quand même de ces exceptions. Oui, tout à fait. Et elle se revendique. Elle vend ses tableaux assez cher, d'ailleurs. Et lorsque elle signe Nelly Jacquemart, elle annote peintre.
Jean-Marc Vasseur, responsable du service culturel et pédagogique de l'abbaye royale de Chaly, propriété de l'Institut de France, nous expose la rencontre entre Nelly Jacquemart et Édouard André.
Alors, en 1872, elle fait le portrait de l'Alfetière et aussi elle fait le portrait d'Édouard André. Pourquoi elle lui tire le portrait ?
Alors, bon, d'abord parce que dans ces grandes familles, vous savez, on aime bien avoir le portrait des ancêtres, donc on continue, c'est la tradition. La famille André, en deux mots, c'est une famille qui est issue d'une longue dynastie de banquiers protestants, souvent installés pour des raisons évidemment politiques en Ardèche, puis ensuite qui va avoir un très grand succès à Paris. Édouard André n'est pas banquier lui-même, on a souvent écrit cela à tort. Non, c'est un homme de son époque, c'est un militaire, qui fait son travail, entre guillemets, avec une certaine application. Mais d'un autre côté, c'est un homme de cette période, c'est-à-dire qu'il est surtout intéressé par la suite par le jeu, par les dames, enfin, vous voyez, par un certain nombre d'occupations qui ne sont pas forcément les plus intéressantes quand on a dirigé plus tard une banque, et c'est pour ça que la famille espère bien le caser le plus vite possible pour éviter de nouvelles turpitudes.
Alors, on sait qu'elle l'a épousé en 1881. Donc, ça faisait 9 ans qu'elle le connaissait. Dans ces 9 ans, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, ils se connaissaient, ils ont parlé ensemble des arts décoratifs. Parce que je crois que c'est quelque chose qui est assez nouveau. Bien sûr, depuis le milieu du 19e, on ne restreint pas l'activité artistique à la peinture, à la sculpture, etc. Mais à son ensemble d'œuvres qui va s'installer dans un domaine, dans une pièce, une pièce d'accueil, etc. Et d'une façon générale, ce qu'on appellera plus tard les arts décoratifs. Et M. André s'est intéressé à tel point qu'il achète la Gazette des Beaux-Arts. Il a beaucoup de moyens, il n'a pas de problème de ce côté-là. Et il devient un collectionneur, et donc on comprend très bien qu'il puisse avoir des discussions fort intéressantes avec Nelly Jacquemart, qui, elle, de son côté, bien avant son mariage, a déjà commencé une collection importante, on le sait par l'inventaire qui a été fait de son appartement avant le mariage.
Donc quand elle l'épouse, il est déjà malade ?
Alors, quand elle épouse, il a cette maladie que les Italiens appellent le mal français. Le mal français, c'est tout simplement la syphilis. C'est une horreur. Je pense que Nelly, qui n'a pas forcément envie d'avoir des enfants, trouve là une situation tout à fait intéressante pour elle. Mais par contre, j'insiste sur le fait qu'en 1881, après ce mariage, le couple va vivre un véritable amour, un amour de l'art. Et on peut dire qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Ils vécurent heureux, ils auront beaucoup d'œuvres d'art.
Alors, au décès de son mari, donc, elle est un peu, je dirais, inconsolable. Donc, elle décide de voyager pour un peu oublier.
Alors, au décès de son mari, les choses ne sont pas aussi simples. Autant la famille André avait bien bordé le contrat de mariage, là, oh surprise, le testament nous indique que M. André Édouard donne l'ensemble de sa fortune à Nelly. Ouais. Donc vous pensez bien que la famille André va réagir et va même faire poser des scellés sur l'hôtel du boulevard Haussmann à tel point qu'elle ne peut même plus rentrer chez elle. Et c'est vrai, vous avez parfaitement raison de le souligner, qu'elle va reprendre aussitôt sa longue série de voyages parce que c'est un globe-trotteur extraordinaire.
Donc elle voyage, elle achète plein d'œuvres dans le monde entier.
Voilà, puis elle a les moyens. Pas oublier qu'en 1894, elle devient la veuve la plus riche de France.
Ouais. Et donc en 1902, elle apprend que le domaine de Chaly est à vendre et elle le rachète.
Absolument. Alors en 1902, fin 1901, elle est partie faire le tour du monde. Elle a 60 ans quand même, hein, il n'y a pas d'avion. Elle ne revient pas tout de suite. Elle se dit, je vais continuer par le Japon, j'irai au Canada, etc. Puis finalement, elle revient sur cette première décision. Déjà, sur le bateau de la P&O qui la ramène vers l'Europe, elle dessine sa future chambre à Chaly alors qu'elle n'a pas encore acheté Chaly.
Alors quand elle sent que c'est la fin, elle n'a pas d'héritier ni d'héritière, donc elle décide de léguer le domaine de Chaly.
Oui, alors là, c'est quelque chose...
1912
Tout à fait. Alors entre les deux, quand même, elle a fait de Chaly son musée. Parce qu'à Paris, c'est le musée d'Édouard et de Nelly, hein, pour parler d'une façon un peu familière. Eh bien, à Chaly, c'est son musée, c'est le musée de Nelly. D'ailleurs, on dit le musée Jacquemin-André qui comprend les deux. Il n'y a pas deux musées, il y a un musée. Donc, elle a installé un nombre d'œuvres considérables à Chaly même, environ 4000 œuvres d'art. Et là, elle prend une décision extraordinaire pour nous, en tous les cas. Elle décide de donner l'ensemble de ces domaines parisiens ou chalisiens, si tant est qu'on puisse le dire, à l'Institut de France, c'est-à-dire qu'elle sort des institutions purement politiques, hein, de la nation, et elle pense que l'Institut de France et les académies seront plus à même de perdurer, quels que soient les conflits politiques qui s'annoncent. Alors que la plupart des grands collectionneurs, il y en avait d'autres, eh bien, qu'arrivent-ils à leur décès, hein, de leur collection? Ben, tout simplement, elles sont vendues.
Ah oui.
Donc le fait, c'est vrai pour le duc d'Aumale à Chantilly, hein, ça a permis de conserver cette richesse extraordinaire, eh bien, à la disposition de tous. Et dans son testament, elle insiste sur le fait que l'espace naturel, c'est une ressource, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'elle dit à l'industrie, ça dit tout. Hein. L'espace naturel, comme les collections, pourront être visités pour le grand bonheur de tous les Français.
Alors cette histoire extraordinaire, on la retrouve dans un bouquin qui est Nelly Jacquemart, artiste et collectionneuse de la Belle Époque, que vous avez écrit avec Pierre Curie.
Alors Pierre Curie, qui est un ami avec lequel nous avons écrit, je ne sais pas si ça peut se dire à quatre mains, avec beaucoup de plaisir, et nous sommes intervenus chacun dans nos propos, dans le texte de l'autre, etc. Pierre Curie, c'est le conservateur du musée Jacquemart-André de Paris, celui qu'on appelle le boulevard Haussmann.
Pour écrire un bouquin pareil, il y a beaucoup de recherches à faire. Il faut combien de temps pour écrire ça?
Moi, je dirais, à titre personnel, plus de 10 ans de recherche. Et puis, j'insiste sur le fait aussi que ce sont des archives émiettées et que l'historien, même s'il en a la tentation, n'a pas le droit de trouver, de proposer une cohérence entre des morceaux d'archives.
Hein, on a vite fait. S'il n'y a pas de lien, oui.
S'il n'y en a pas, ouais. On n'en crée pas. Et c'est au lecteur, évidemment, de se faire une idée.
C'était Hervé de Chorniard qui recevait dans les studios de RVM Jean-Marc Vasseur, responsable du service culturel et pédagogique à l'abbaye royale de Chaly, propriété de l'Institut de France, pour la sortie de son livre intitulé « Nelly Jacquemart, artiste et collectionneuse de la Belle Époque ».
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne de RVM.